Alors, j'aimerais maintenant vous présenter notre deuxième conférencière de la matinée, la docteure Nathalie Johnson, qui est hémato-oncologue. Elle est chercheure clinicienne à l'Hôpital Général Juif. Elle a fait sa résidence en médecine interne, hématologie et oncologie à l'Université McGill, a poursuivi un doctorat en pathologie à la BC Cancer Agency à Vancouver. Et depuis son retour à Montréal en 2010, elle a remporté plusieurs prix, plusieurs bourses d'excellence de recherche. Elle concentre sa recherche sur l'analyse des changements génétiques qui sont responsables de la progression des lymphomes et de la résistance à la chimiothérapie. Elle a publié plus d'une trentaine d'articles portant sur la biologie des lymphomes, donc... Elle a un joli titre, Biobanque, une mine d'or pour les chercheurs du Québec. Mesdames, Messieurs, la docteure Nathalie Johnson.
Bon, je suis un petit peu plus petite. Bien, merci beaucoup. J'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est la biobanque des lymphomes. Et dans les prochaines 15 minutes, je vais essayer de vous convaincre que le banquage de tissus des lymphomes est une mine d'or pour les chercheurs du Québec et c'est absolument essentiel pour faire avancer la recherche sur les lymphomes. Alors, je vais commencer par une histoire de succès que tous les chercheurs dans divers types de cancers aspirent à atteindre éventuellement. Alors, ça, c'est une histoire où que on regarde les cellules humaines, on apprend qu'est-ce qui cause la maladie, on définit la cible et ensuite on trouve un traitement efficace. Alors, ce que vous voyez à l'écran, dans le milieu, c'est deux tubes de sang. À gauche, c'est du sang normal, où qu'on voit les globules rouges qui occupent la plupart du tube. À droite, on le voit peut-être moins bien ici, mais c'est anormal. Ça vient d'un patient qui a une leucémie myéloïde chronique, où que la plupart de son sang est occupé par des cellules blanches, des cellules leucémiques, qu'on peut voir à l'écran sous la lame. Et en 1960, des chercheurs, à ce moment-là, Noel, a identifié, a regardé les chromosomes, puis a trouvé que les chromosomes étaient anormales chez une série de, de ces patients-là. Et éventuellement, au cours des années, on a trouvé que cette fusion des deux chromosomes liait deux messages qui ensuite faisaient une protéine anormale qui causait la production des cellules d'une façon incontrôlée. Alors, encore là, le temps passe, on identifie la protéine anormale et dans les années 90-2000, on crée un médicament qui cible précisément cette protéine. Et ce traitement-là a révolutionné le traitement de la maladie de CML. Alors, dans les lymphomes, c'est plus compliqué. Il n'y a pas seulement une cible, mais plusieurs cibles. Mais n'empêche que tout ce qu'on connaît sur le lymphome vient de l'analyse des tissus humains. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on voit d'une maladie Hodgkin. C'est ce que le pathologiste voit sous son microscope. Et on a pu comprendre que la cellule cancéreuse, ouais, on ne le voit pas, elle est ici. OK? Alors, la cellule cancéreuse dans la maladie d'Hodgkin représente seulement 1% de toutes les cellules qu'on peut voir. Et aussi, on comprend que cette cellule-là, elle se développe, elle change sa génomique pour sécréter des messages, des protéines aux cellules de son environnement, des cellules inflammatoires qui sont normales, pour l'aider à survivre et éviter de se faire attaquer par le système immunitaire. Et c'est ce qu'on peut voir ici. Oups, pardon. Oh, je ne peux pas retourner.
Oui, je pense qu'il faut vous diriger plus vers ça ici.
Oh, ça va trop loin. Excusez. OK. Alors, on a vu Hodgkin. Alors, comme Dr. Aulnay vous a expliqué, il y a la maladie d'Hodgkin et il y a la maladie non-Hodgkin. Le lymphome le plus courant dans la maladie non-Hodgkinienne est le lymphome diffus à grandes cellules, qui est un lymphome agressif. Et encore une fois, en étudiant de centaines de tissus de lymphome humain, on a compris que cette maladie-là, même si au microscope elle a de l'air semblable, qu'au niveau moléculaire, représente au moins 3 maladies. OK? Et ça, ça dépend des gènes que ces lymphomes-là sécrètent. Ce que vous voyez à gauche, c'est un tableau de couleurs, OK, qui exprime la variété de l'expression des gènes, ou que sur l'axe des X, c'est chaque colonne représente un lymphome, puis chaque rangée représente des gènes. Alors, vous pouvez voir que dans ces types-là, il y a des gènes qui sont surexprimés en rouge, puis des gènes qui sont silencieuses en vert. Puis ça, c'est important parce qu'au niveau prognostique, ces 3 types de lymphomes-là comportent un avenir très différent chez nos patients. Les lymphomes du type GCB puis primary mediastinal ont une très bonne réponse à la chimiothérapie, tandis que les lymphomes du type ABC répondent moins bien à la chimiothérapie. Puis dans ces 3 types, sous-types moléculaires, on voit qu'il y a des accumulations d'anomalies génétiques qui sont précises à ces sous-types-là. OK. Pardon. Alors, voici, je retourne à mon modèle de succès, qui est Dr. Knoll, qui a utilisé son microscope dans les années 60, c'est-à-dire pour identifier la cible. Maintenant, nous avons des nouvelles technologies. Alors, eux, ça leur a pris 40 ans avant d'identifier la cible pour avoir un traitement efficace. Maintenant, on est dans une autre ère, c'est-à-dire qu'il est maintenant possible de trouver le code génétique humain à la plus haute résolution en dedans de 2 semaines et pour le coût d'à peu près de 2 000 $. Alors, c'est vraiment, ça a révolutionné le parcours, comment identifier les cibles et ensuite essayer de trouver, de comprendre ces cibles-là. Et ce que vous voyez en haut, c'est la lame de Lumina, qui est que sur chaque ligne, on peut séquencer un génome complet. Alors, je vous ai expliqué que c'est important d'étudier le lymphome en tant que tel, mais pas en isolation. Alors, ce qui est important, c'est d'étudier le lymphome dans le contexte clinique, parce que la réponse à la chimiothérapie dépend de la biologie de la tumeur. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est un PET scan des patients qu'avant la chimiothérapie, on peut détecter plusieurs aires de maladie. Et après la chimiothérapie, on voit que le lymphome disparaît. Alors, ce qui est important, c'est de bien lier le lymphome avec toutes les caractéristiques cliniques du stade et de la réponse à la chimiothérapie. L'objectif ultime, c'est sûr, c'est comme on a mentionné plus tôt, c'est la médecine personnalisée. On n'est pas complètement rendu là, mais on s'approche. Présentement, si on a un groupe de patients qui a un lymphome et on les traite avec la chimiothérapie standard, bien, il va y avoir un certain nombre de patients qui vont aller en rémission complète. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde et il reste des patients qui répondent moins bien à la chimiothérapie. Et on sait que cette réponse dépend de leur biologie, en grosse partie. Avec l'étude qui a déjà été faite sur les lymphomes, on a identifié les biologies des voies de survie que les lymphomes utilisent pour rester en vie. Et on a créé des molécules, des nouveaux médicaments qui ciblent ces voies-là. Et ces nouveaux médicaments sont dans des essais cliniques chez les patients qui ont fait des rechutes, qui ont des lymphomes qui ne répondent pas bien. Mais malheureusement, ces réponses-là, on les voit seulement dans peut-être 1 dans 5 patients. Alors, on a des bons médicaments qui ciblent des voies de survie. Puis on a des patients qui pourraient bénéficier de ces médicaments-là. Le but maintenant, ou le challenge, c'est de trouver quel médicament est le plus efficace chez le patient ou la patiente qui a la cible. Alors, pour que les chercheurs étudient les lymphomes, il faut créer des banques de lymphomes, des banques où de donner aux chercheurs les outils pour bien étudier la biologie de la maladie, pour faire avancer la recherche. Alors, qu'est-ce qu'une banque de lymphomes? Alors, quand les patients ont une biopsie au niveau du diagnostic, à l'heure du diagnostic ou en rechute, le lymphome, comme vous voyez, le ganglion, va dans le laboratoire de pathologie et une partie de ce lymphome-là est servie pour faire le diagnostic. Mais il en reste toujours qui n'est pas nécessaire pour le diagnostic. Alors, cette partie-là de superflu pourrait être donnée à la recherche. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Bien, on peut faire plusieurs choses. Des analyses génomiques, comme que je vous ai parlé plus tôt. On peut identifier plusieurs marqueurs, plusieurs protéines au niveau de chaque cellule. Alors, on banque non seulement le tissu congelé intact, mais aussi des cellules en suspension. Et on peut aussi étudier un marqueur, mais dans plusieurs lymphomes. Alors, on peut créer ce qu'on appelle des « tissue microarray », où il y a un lymphome, on prend une biopsie du lymphome qui est fixé dans la paraffine et ensuite, on en met dans la cire, dans la paraffine, peut-être une centaine. Et ensuite, on coupe la lame et on peut analyser les marqueurs de son choix et ensuite dire, OK, est-ce que l'expression de cette protéine-là ou de ces marqueurs-là est reliée à la survie ou à la réponse à la chimiothérapie? Pour utiliser les lymphomes au niveau à but de recherche, il faut absolument avoir un consentement, avoir la permission du patient. OK? Et on appelle ça d'avoir un consentement éclairé pour que le patient comprenne les risques et les bénéfices de participer à la recherche. Et ces consentements-là sont toujours faits avec toutes les normes d'éthique qui sont là pour protéger le patient des risques de la recherche. Alors, quels sont les risques de la recherche? Comme je vous ai dit plus tôt, quand on étudie les lymphomes, on veut savoir c'est quoi le traitement et la réponse clinique. Alors, pour ça, on a besoin d'avoir accès au dossier médical du patient pour avoir toutes les données caractéristiques. Mais là, vous pouvez, même si tout est codé et qu'il n'y a aucun nom d'utilisé, théoriquement, il y aurait comme risque potentiel une violation de la confidentialité. Alors, quelqu'un pourrait rentrer dans la banque, avoir accès au dossier, puis de trouver les codes. Et ça peut empêcher le patient ou sa famille d'être assuré, disons, par les compagnies d'assurance. L'autre chose, c'est que quand on analyse la biologie des lymphomes, il faut toujours le comparer à l'ADN normal. Parce que chaque lymphome, on comprend maintenant, chaque lymphome est unique. Comme chaque personne dans cette salle est unique, il faut comparer le lymphome qui est anormal à votre version normale et soustraire tout ce qui est de vous. Alors, pour faire ça, il faut une partie de vous qui est normale. Alors, nous, dans les lymphomes, la plupart du temps, on utilise une analyse sanguine. Mais si elle contient des cellules de lymphome, alors on peut utiliser la salive aussi. Alors, un risque potentiel, ça serait l'inconfort d'avoir une prise de sang, mais nous, chez nos patients, on le prend en même temps que les autres analyses. On fait aussi le banquage de tissus dans des études cliniques. Alors, à l'Hôpital général juif, on a une étude clinique qui étudie un nouveau médicament, un nouveau traitement. Et pour participer à l'étude, le patient doit avoir une biopsie juste avant qu'on donne le médicament. Puis, on peut aussi obtenir une biopsie à la rechute pour essayer de comprendre quels sont les marqueurs biologiques qui prédit le succès, qui peut prévoir le succès à ce traitement-là. Alors, le but, ça serait de dire, OK, dans les patients futurs, OK, si vous avez ce marqueur-là, vous avez une bonne réponse, vous avez plus de chances de répondre à cette maladie-là. Mais si vous n'avez pas ces marqueurs-là, bien, on ne va pas vous le donner parce que ça vous évite d'avoir la toxicité. Ce médicament-là, c'est un inhibiteur de... En français, je ne sais pas. C'est vrai. Alors, ce que vous voyez, c'est la jambe d'une des patientes. Elle a un lymphome diffus à grandes cellules. Ça, c'est du côté gauche. Ça, c'est le lymphome qui avait progressé malgré trois thérapies très agressives. Et après seulement deux traitements du nouveau médicament, juste un médicament, puis c'est un comprimé, on voit qu'il y a une nette amélioration de sa maladie. Alors, chez cette patiente-là, il y a eu un gros progrès. Elle a une belle qualité de vie à la maison aussi. Alors, quand j'ai fait mon training à Vancouver, où ils ont une banque de lymphomes qui est reconnue mondialement, quand je suis revenue au Québec en 2010, bien, je me suis associée avec Dr. Hébert, qui, elle, avait déjà créé une banque de cellules leucémiques au Québec. C'est pour le but de cette banque-là, c'est de donner aux chercheurs l'opportunité d'étudier des cellules leucémiques. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de tissu de lymphome qui nécessitait une certaine expérience. Alors, avec l'aide de Dr. Hébert, j'ai ouvert l'axe lymphome qu'on appelle à l'Hôpital général juif, qui va éventuellement ouvrir ses portes à d'autres centres qui veulent participer, comme les autres centres du Québec qui participent à la banque leucémique, qui peuvent participer aussi à la banque de lymphome. On congèle les tissus frais, les cellules de lymphome, le tissu en paraffine, le sang périphérique, le consentement et tout ça, et ça fonctionne très, très bien. À date, à l'Hôpital général juif, il y a déjà tous les patients qui ont des lymphomes sont invités à participer. Et déjà, il y a 430 patients déjà qui ont consenti à participer à la banque. Alors, je tiens à remercier tout le monde ici, surtout les patients qui maintenant sont demandés à participer à la recherche, avoir une participation plus active et délibérée sur la recherche des lymphomes. Moi, je vous dis que la plupart des patients qu'on approche pour participer à la banque, 99 % dit oui. Je remercie les infirmières, les médecins, les chercheurs associés qui participent à la banque pour faire le consentement des patients, d'aller chercher les analyses sanguines, de faire le banquage de tous les tissus. Les comités d'éthique qui s'assurent que tout est conforme aux lois et à la protection des enfants, des patients, et les commanditaires. C'est sûr que ça coûte de l'argent pour banquer les tissus, de payer pour, pour les gens qui participent au consentement et tout ça. Alors, c'est pas facile d'avoir des fonds pour ça parce que c'est pas considéré comme la recherche, c'est considéré comme un outil de recherche. Alors, je remercie le Cyclodéfi contre le cancer à l'Hôpital Général Juif, puis aussi il y a l'industrie pharmaceutique, par exemple Roche Canada, qui a donné les fonds pour ça. Et je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions en français ou en anglais, ça me ferait plaisir de les répondre.
Alors, oui, je sens que Gilles, vous avez le goût de vous lever. Je vous vois sur le bout de votre chaise, Monsieur Léveillé.
Écoutez, on parle de l'importance de la recherche. On voit, par exemple, au niveau du cancer du sein, on parle de 260 millions par année au niveau de recherche ciblée sur des formes de cancer, que ce soit le sein, la prostate, le côlon, toutes les formes de cancer. Au niveau du cancer du sein, c'est 63 millions sur 260 millions. On parle de 8 000 décès par année. Au niveau du cancer du lymphome, c'est moins de 10 millions par année. Madame Robson parlait ce matin de l'importance de l'advocacy. Comment faire pour que la voix soit entendue au niveau de la recherche sur le lymphome? On voit que c'est quand même des recherches très complexes, vu le nombre de cas possibles.
Et qu'il y a du succès.
Et qu'il y a du succès.
Il y a beaucoup de succès.
Oui, c'est sûr. Moi, je pense qu'il faut travailler fort pour avoir plus de fonds pour étudier ces cancers-là. Peut-être que la voix des patients qui sont atteints du cancer du sein est plus forte, alors qu'il faut peut-être crier plus fort, faut se faire entendre pour avoir plus de dons. Je suis d'accord avec vous. Ce que j'aime à propos de la recherche sur le lymphome, c'est que je sais que cette recherche-là peut guérir une partie de ces patients-là. Alors, c'est mon drive. Ça m'encourage d'essayer d'en guérir plus.
Et quel est le rôle du QCRO, Québec Consortium de Recherche en Oncologie Clinique, au niveau du développement de la recherche, entre autres, que ce soit au niveau du lymphome ou autre, tout ce qui est développement de la recherche clinique?
Bien, nous, c'était un outil vraiment essentiel pour notre étude, comme je vous ai montré sur le LBH, là, à s'assurer que tout se déroule bien dans les centres qui participent, parce que c'est pas seulement l'Hôpital Général Juif, mais il y avait un centre à Halifax, un centre à Toronto, s'assurer que les biopsies soient bien faites, qu'ils sont bien transportés. Et je vous dis que tous les patients qui ont eu des biopsies, il n'y a eu aucune complication. Toutes les biopsies se sont rendues à notre hôpital. Il y a eu sans délai. L'analyse, l'ADN, la qualité est excellente. Enfin, on va écrire un article comme quoi que c'est vraiment un bon modèle pour procéder dans le futur, dans les études cliniques, parce que il y a trop d'études cliniques qu'on donne le médicament à tous les patients, mais après ça, il y en a un cinquième qui répond, puis on ne sait pas pourquoi. Alors, dans les cancers solides, ils procèdent de plus en plus comme
ciblée.
Ça. Ouais.
Mm-hmm.
Et le QCRO joue un rôle de quoi? De coordonnateur de développement de la recherche clinique?
Oui, oui.
Merci.
Est-ce que vous voyez, parce que vous disiez que vous avez commencé à mettre ça sur pied en 2010, au fond, ça fait 2 ans.
En fait, c'est en 2011, parce que juste le fait…
Un an.
Oui, c'est parce que juste de préparer tous les documents pour le comité d'éthique, s'assurer que tout est bien fait, que les
pratiques… Et cachère.
Oui. Que toutes la confidentialité est protégée, que… Il faut démontrer qu'il y a personne qui va avoir accès au tissu. Tu sais, il n'y a personne qui peut rentrer, un patient qui peut rentrer, ouvrir le congélateur, prendre du tissu. Ça, faut tout. Alors, c'est vraiment 300 pages de documents à soumettre au comité d'éthique, de dire, écoutez, je suis capable de faire ça, ça va marcher. Puis ça a pris un an.
C'est un gros travail de logistique et d'élaboration de processus éthiques imbattable pour être sûr que tout le monde va vous bénir et vous dire go. Mais alors maintenant c'est fait, est-ce que vous pouvez à court terme nous dire par exemple d'ici 2015 on a le sentiment qu'on va avoir atteint ceci ou si on ne le sait pas exactement. À court terme, qu'est-ce que cette banque-là, ces banques-là vont véritablement avoir apporté, disons, dans 3 ans? Du matériel de recherche, bien sûr, mais...
Oui. OK. Alors, la banque de l'infome est juste à ses débuts, n'est pas officiellement ouverte à tout le monde, sauf certains chercheurs qui collaborent avec moi. Puis ils me disent, Nathalie, j'ai besoin de tissus pour voir si ce marqueur-là existe vraiment dans les cellules humaines, puis pas seulement dans des lignées cellulaires. Moi, je suis toujours prête à dire,
fournir
OK,
la
à fournir.
Bien,
c'est sûr qu'il y a certaines étapes, il faut que ça aille au comité scientifique de la BCLQ. Ils vont dire oui, c'est sûr que cette recherche-là, c'est pour avancer la recherche.
Le savoir. Est-ce que c'est assez rapide d'avoir les autorisations?
Oui, mais le chercheur doit avoir en premier lieu l'autorisation du comité d'éthique à leur hôpital. Uh-huh. Alors, ça a déjà été revisé, okay, ça a déjà été approuvé. Et ensuite, ils demandent à la BCLQ, OK, j'ai besoin de 50 échantillons, c'est ça qu'on veut faire, on veut voir si ce marqueur-là est présent ou absent ou tout ça. Alors, là, à ce moment-là, le projet est étudié par au moins 3 membres du comité scientifique. On approuve, ensuite, les échantillons ne sont pas vendus à profit, mais il y a quand même un prix juste pour
défrayer
les coûts de conservation, mais c'est comme ça que...
Au fond, ce que vous me dites, c'est que d'ici 3 ans, il y aura un nombre X de chercheurs qui auront pu pousser leur recherche grâce à du matériel de qualité dans un contexte... baliser tout ça. Monsieur, c'est à vous.
Oui, Sylvain Foucard de Johnson Canada. Une situation qui est plus d'ordre médico-légal, en fait, c'est qu'avant, dans les banques de tissus, quand les patients donnaient leur consentement, généralement, c'est que, OK, je donne mon tissu, mais il ne peut pas être utilisé à n'importe quelle fin. Et donc, les comités d'éthique, puis aussi, je pense, c'est le Code civil du Québec, a fait en sorte que ça a un peu freiné l'ardeur des gens qui faisaient des banques de tissus. Quel langage on utilise maintenant pour faire en sorte que, justement, les patients puissent donner leur matériel et faire en sorte que ces tissus-là peuvent être utilisés, entre guillemets, à toute fin correcte et approuvés préalablement par un comité d'éthique?
Oui. Alors, c'est un gros travail. le formulaire de consentement est 7 pages. C'est pour expliquer que ce lymphome-là peut être utilisé, le tissu peut être utilisé à n'importe quel projet. C'est sûr que c'est un projet qui serait approuvé par le comité d'éthique, mais c'est sûr que oui, faut expliquer aux patients que oui, le consentement, c'est un consentement là, très...
qui est plus large que juste pour une étude.
Oui. Puis ensuite, on leur demande est-ce qu'ils veulent faire le consentement de ganglions, de moelle osseuse, salive. Est-ce qu'il y a un consentement si on peut les recontacter? Parce que c'est important, ça aussi, dans le...
Suivi,
oui, mais aussi s'il y a d'autres études qui sont reliées, mais on n'a pas ces informations-là, puis ce n'est pas des informations standards qu'on prend, disons, est-ce qu'il y a... des fumeurs, des gens qui fument à la maison.
Ce
n'est pas des questions qui sont nécessairement reliées au lymphome. Alors, si on veut recontacter ces patients-là pour avoir d'autres informations, bien là, ils peuvent mettre « oui, ça ne me dérange pas de me faire recontacter », tout ça. Alors, ils sont bien informés. Mais c'est un consentement là,
qui est large.
Qui est très, très large.
Bien. Alors, mesdames, messieurs, je pense que nous allons l'applaudir chaleureusement, la docteure Nathalie Johnson. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.